Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 19h30 ici à Paris, 18h30 à Bamako.
Afrique Soir.
Et c'est l'heure de retrouver la première édition d'Afrique Soir de ce mercredi. Toute l'actualité sur le continent pendant 30 minutes avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une, la disparition d'un monstre sacré du cinéma africain. Souleymane Cissé disparaît à Bamako à l'âge de 84 ans. Le célèbre cinéaste malien était considéré comme le père du cinéma en Afrique. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo. Des tirs et des scènes de pillage à Uvira où sous la pression de l'avancée de l'AFCM23 soutenu par le Rwanda. Et puis face à cette crise, l'Église catholique et les protestants congolais multiplient les initiatives en faveur d'un dialogue entre les parties. Vous entendrez l'abbé Ncholé, secrétaire général de la CENCO. Climat d'incertitude au Soudan du Sud. Ces dernières semaines, des combats dans les États au Nil et de l'Équatoria occidental ont opposé l'armée fidèle au président Salva Kiir et les forces de Riek Machar. Ce sera le dossier d'Afrique Soir. À suivre également l'enlèvement en Guinée d'une figure de la société civile, Abdoul Sakho, coordinateur national du Forum des forces sociales de Guinée. Le football et une soirée spéciale Ligue des champions, barrage retour, Real Madrid, Manchester City. Nous appellerons Cédric d'Oliveira. Et puis PSG-Brest également qui se joue ce soir au Parc des Princes. Et enfin, musique avec le festival Afropéen qui débute demain à Lomé, au Togo, et ça dure jusqu'au 23 février. Il y a un peu plus d'une heure, on a appris la mort de Souleymane Cissé. Bonsoir Wely Diallo.
Bonsoir.
C'est une grande perte pour la culture et pour le 7e art. Le célèbre cinéaste malien était en effet considéré comme le père du cinéma en Afrique.
Ouais, c'était un grand monsieur qui s'est éteint à Bamako à l'âge de 84 ans. Une figure emblématique du cinéma africain. Son premier long métrage, Den Mousso, réalisé en 75, lui aura valu un séjour en prison. Mais le cinéaste ne s'arrête pas là. Il poursuivra sa carrière avec deux autres films, Bahara en 78 et Fénié en 82, qui lui ont permis de remporter deux étalons de Yenenga au FESPACO. Pour son film le plus connu, Yélène, la lumière, en 87, il reçoit le prix du jury au Festival de Cannes et devient le premier cinéaste d'Afrique noire à être distingué. Ce ne sera pas non plus son seul film promu. Tout au long de sa carrière, Souleymane Cissé a été honoré par de nombreuses distinctions, dont le Carrosse d'or en 2023, décerné en reconnaissance à sa contribution exceptionnelle au cinéma mondial. Dans un discours émouvant, il avait déclaré « Le cinéma aurait été toute ma vie et pour cela, je remercie le cinéma ».
Wely Diallo, merci. J'ajoute que Souleymane Cissé aurait dû présider le jury fiction long métrage pour la 29e édition du FESPACO qui doit se tenir à partir du 22 février dans la capitale burkinabé, Ouagadougou. C'est donc tout le monde du 7e art, le monde du cinéma africain qui est en deuil. Et je vous propose à présent de retrouver la voix de Souleymane Cissé et son regard sur le cinéma. Partir à la recherche d'une culture qui ressemble à son peuple, à son pays, le Mali. Voilà ce qu'il disait au micro de Catherine Ruel après la sortie de son troisième film Fignier. C'était en 1982.
Je suis très ému car pour moi, je suis venu à ce festival pas pour gagner des prix mais pour une ouverture plus large, pour que le cinéma soit un cinéma universel. Et ce prix, je pense que c'est pas pour moi. Mais ceux qui m'ont aidé, surtout de l'autre côté et qui n'ont pas le droit de parler. Merci.
Souleymane Cissé qui nous quitte donc à l'âge de 84 ans sous les applaudissements. C'était en 1982 au micro de Catherine Ruel, une archive RFI. Bien sûr, nous reviendrons plus longuement sur la disparition du cinéaste malien.
Afrique Soir sur RFI.
La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, après avoir pris le contrôle de la cité de Kamanyola, située environ 45 km de Bukavu dans la province du Sud Kivu, les combattants de l'AFC M23 poursuivent leur avancée en direction d'Uvira, c'est plus au sud. Des tirs sporadiques ainsi qu'un climat de panique ont été signalés dans plusieurs localités environnantes, y compris à Uvira, ville située sur les rives du lac Tanganyika. Patient Ligoti.
Ce matin, des tirs étaient entendus et des pillages se sont poursuivis à Uvira, paralysant tout mouvement, y compris celui des ambulances. Les sources locales accusent des hommes armés, dont les milices et certains militaires parmi lesquels ceux qui reviennent du front des Kamanyola plus au nord. Dans ce contexte, Médecins sans frontières lance un appel urgent à la protection des civils. Les hôpitaux de la région continuent de recevoir des blessés, en majorité des civils. MSF, qui a dû réduire ses équipes sur place, continue malgré tout de fournir du matériel médical pour les blessés. Une aide encore largement insuffisante face aux besoins grandissants, dit l'organisation. Dans ces climats, de nombreux habitants tentent de fuir Uvira, principalement par les deux ports de la ville. Une embarcation a même été prise pour cible par des hommes armés. Et pendant ces temps, la FCM-23 poursuit son avancée. Après avoir pris Kamanyola puis Luvungi, les combattants progressent en direction d'Uvira sur la route nationale numéro 5. Sur leur chemin, Sangé et Kiliba, deux localités considérées comme des bastions de Wazalendo, milice pro-gouvernementale. Dans cette zone, des militaires burundais ont été aperçus selon des sources locales.
Et face à cette crise, l'Église catholique et les protestants congolais ont engagé des démarches, des initiatives pour favoriser un dialogue entre les différentes parties. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, fait partie de cette délégation qui réunit donc la CENCO et l'Église du Christ au Congo qui s'est rendue récemment à Goma. Ces derniers jours, les religieux ont non seulement rencontré Corneille Nanga, le coordinateur de l'AFC M23, mais aussi le président rwandais Paul Kagame, et dans le cadre de ces consultations, ils ont également échangé avec le président kényan William Ruto. Interrogé par Lisa Fabian, Monseigneur Cholet estime qu'il est important de dialoguer avec l'AFC M23.
C'est une partie du problème aussi, on ne peut pas le mettre de côté. Corneille Nanga et les autres sont des Congolais, ils ont pris les armes, ils doivent expliquer aux autres Congolais que nous sommes, pourquoi. Et les autres Congolais doivent aussi voir avec eux qu'est-ce qu'il faut pour trouver des solutions sans la guerre. Pour arriver à une solution pacifique comme nous la proposons, il faut des signaux de part et d'autre. Il faut vraiment un engagement formel et de la part de M23 et de la part de Kinshasa. Il ne faudra pas que M23 considère que ce qu'on leur demande, c'est pour laisser le temps à l'autre camp de s'organiser. Il ne faudra pas que de l'autre côté de Kinshasa, on considère les négociations comme une faiblesse. Non, la guerre n'est vraiment pas une solution pour nous.
L'abbé Ncholé, secrétaire général de la CENCO, avec Lisa Fabian, il sera l'invité demain d'Afrique Matin. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 18h37. En temps universel. À présent, ce nouvel enlèvement en Guinée, au moins le cinquième en 7 mois, ça s'est passé cette nuit à Conakry. Abdoul Sako, coordinateur national du Forum des Forces Sociales de Guinée, a été enlevé par des individus masqués et en uniforme qui ont forcé l'entrée de son domicile. Abdoul Sako, figure de la société civile, est l'une des voix les plus critiques de la transition conduite par la junte du général Doumbouya Sidi Yansané.
C'est vers 4h du matin que 3 véhicules pick-up se garent au quartier Kiroti de la commune de Lambani, dans la haute banlieue de Conakry. Des individus, pour certains cagoulés et en uniforme militaire, interrogent des voisins. Ils leur tendent la photo d'Abdoul Sako et leur ordonnent fermement d'indiquer le domicile du militant. Après avoir repéré le lieu, les kidnappeurs tentent de forcer l'entrée, mais la porte métallique résiste. Ils décident de percer une brèche dans le plafond de la terrasse extérieure afin de se faufiler dans les combles de la maison et forcer leur chemin jusque dans le salon de la famille Sako, provoquant d'énormes dégâts. Les individus sortent violemment le militant de son lit, le ligotent sous les yeux de sa mère, son épouse et leurs enfants, avant de convoyer Abdoul Sako vers une destination inconnue. Il y a un mois, les membres du Forum des Forces Sociales annonçaient déjà faire l'objet de menaces et se disaient surveillés, poussant leurs avocats à déposer une plainte contre X. Le mode opératoire est similaire aux enlèvements des militants Fonike Menge et Biloba, du journaliste Habib Marwan Kamara et de l'ancien secrétaire général du ministère des Mines, Sadou Nimaga, tous portés disparus.
Dans l'actualité également, le Mali, où les autorités de transition annoncent l'instauration de nouvelles taxes. Certaines seront payées par les entreprises, d'autres par les consommateurs. Et c'est le cas notamment pour les services téléphoniques, mais aussi pour les boissons alcoolisées. Présentées par le gouvernement de transition comme une contribution populaire pour financer des projets de développement, ces nouvelles taxes sur des produits utilisés tous les jours par tous les Maliens sont plus ou moins appréciées à leur niveau. Sont-elles légales, ces mesures, et pourquoi cette différence de traitement entre la bière et le vin? Élément de réponse avec David Bachet.
La contribution spéciale sur l'alcool s'élève à 1000 francs par litre pour les boissons produites au Mali et contenant entre 6 et 15 degrés d'alcool. 3000 francs par litre au-delà de 15 degrés. Ces taxes, qui doublent pour les boissons importées, ciblent donc directement le vin et les alcools forts, whisky, vodka, rhum. Et la bière, son taux avoisinant les 5 degrés pour les marques les plus consommées, l'exclut de fait de ces nouvelles taxes. Surprenant pour la boisson alcoolisée la plus prisée. Injuste, estiment plusieurs opérateurs du secteur qui, sous couvert d'anonymat, déplorent que la masse des buveurs de bière ait été préservée au détriment de leur propre activité. Mais les nouvelles taxes ne concernent pas que les boissons alcoolisées. Les Maliens seront désormais prélevés à chaque recharge de crédit téléphonique et à chaque transfert d'argent par mobile monnaie. Des dispositions adoptées par ordonnance en vertu d'une loi d'habilitation qui offre cette possibilité au gouvernement pour 5 domaines précis. L'ancien Premier ministre Moussa Mara s'interroge.
La prise de taxes ne figure pas parmi ces 5 catégories. Il aurait fallu que la loi d'habilitation le précise, ou en tout cas que le gouvernement laisse le Parlement se saisir d'un dossier aussi important. La légalité des différentes ordonnances, elle est vraiment questionnable.
Sollicité par RFI sur ce point, la primature n'a pas souhaité commenter.
Le Soudan, en colère, il condamne l'acte hostile du Kenya à son encontre, selon les propos du ministère des Affaires étrangères soudanais dans un communiqué. Hier, à Nairobi a été lancée l'Alliance fondatrice du Soudan. Elle regroupe des organisations de la société civile, des partis politiques, des groupes armés et les FSR, les forces de soutien rapide en guerre contre l'armée soudanaise. Tous doivent signer vendredi une charte en vue de créer un gouvernement parallèle à celui de Port-Soudan et pour les autorités soudanaises. Le divorce avec le Kenya est consommé, Gaël Alex.
Pour les autorités de Port-Soudan, le Kenya a violé tous les traités internationaux dont il est signataire, comme la Charte des Nations Unies ou l'acte constitutif de l'Union africaine. Accueillir les dirigeants des FSR et leur permettre de mener des activités politiques de propagande, alors qu'ils continuent de massacrer des civils sur la base de leur ethnie, constitue une approbation et une complicité de ces crimes odieux, écrit le communiqué. Le ministère soudanais des Affaires étrangères appelle donc la communauté internationale à condamner cet acte hostile. Que les FSR et la société civile soudanaise travaillent à Nairobi. À dresser une feuille de route et à proposer des dirigeants est compatible avec le rôle du Kenya dans les négociations de paix, écrit quant à lui le ministère kényan des Affaires étrangères dans un communiqué publié ce soir. Ce n'est pas la première fois que le torchon brûle entre Port-Soudan et Nairobi. Le Kenya a accueilli à plusieurs reprises le général Emeti, commandant des forces de soutien rapide. En janvier 2024, le président William Ruto lui avait même déroulé le tapis rouge, ce qui avait valu le rappel à Port-Soudan de l'ambassadeur soudanais à Nairobi. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Et j'ajoute cette réaction ce soir des Nations Unies qui estiment que la proclamation attendue vendredi d'un gouvernement parallèle par les paramilitaires soudanais augmenterait la fragmentation du pays et risque d'aggraver la crise. Il faut préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan. Et ça reste un élément clé d'une résolution durable du conflit. Voilà donc ce que déclare le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric. Et puis, chez le voisin, au Soudan du Sud, des tensions entre les forces armées du président Salva Kiir et celles du vice-président Riek Machar. Elles se multiplient depuis le début de l'année. Des clashs ont eu lieu dans l'État équatorial occidental, au sud-ouest du pays, en janvier. Et ce jusqu'à la mi-février. De lourds combats ont également opposé les forces armées sud-soudanaises à de jeunes civils armés dans la ville de Nazir. Et face à cette escalade, l'ONU et la société civile appellent au respect de l'accord de paix, Florence Métaux.
Si les deux camps réitèrent leur attachement à la mise en œuvre de l'accord de paix, leur récit des récents incidents sécuritaires diverge du tout au tout. En Équatoria occidentale, l'armée sud-soudanaise, loyale au président Salva Kiir, a affirmé avoir rencontré une hostilité de la part des troupes de l'armée d'opposition, loyale à Riek Machar, lors du démantèlement de Checkpoint. Mais l'armée de Riek Machar a, elle, dénoncé l'attaque et la capture d'une de ses bases de cantonnement par l'armée sud-soudanaise. Joint par RFI, le colonel Lampol Gabriel, porte-parole de l'armée d'opposition, affirme toutefois que l'heure est à l'accalmie en Équatoria occidentale. Mais il considère que l'armée sud-soudanaise a, je cite, « franchi une limite » et n'exclut pas la possibilité de nouvelles attaques. De nombreuses négociations ont selon lui lieu actuellement pour endiguer la violence. Dans le Haut-Nil, au nord-est du pays, la tension reste très élevée à Nasir, où de violents combats ont opposé les 14 et 15 février l'armée sud-soudanaise aux jeunes civils armés, souvent présentés comme membres de la White Army, une milice ethnique plutôt loyale à l'opposition. Florence Mieto, Djouba, RFI.
Et l'ONU appelle donc les parties à respecter l'accord de paix signé en 2018 qui avait mis fin à 7 ans de guerre civile, mais de tout cela dans un contexte politique compliqué ces dernières semaines. Le président a signé une série de décrets. Il a limogé une partie des officiels, dont des membres de l'opposition. Alors ces dernières tensions menacent-elles l'accord de paix? Écoutez, Emmanuel Veuillet, spécialiste à l'Institut des Mondes Africains, elle répond à Arthur Ponchelet.
On est déjà sur un accord de paix qui a duré, qui n'a pas été mis en place, c'est-à-dire depuis sa signature en 2018. Énormément des provisions qui étaient censées prendre place n'ont pas été mises en place et c'est pourquoi ils ont encore une fois rééchelonné pour pouvoir encore gagner du temps de transition, c'est-à-dire là encore repoussé à 2 ans les prochaines élections.
Les élections étaient prévues en décembre dernier et elles ont été repoussées à 2026.
Exactement. Et là, en fait, c'est ce dernier délai de 2 ans, on voit en fait que se sont accélérés les incidents et les différents politiques au plus haut, c'est-à-dire autour même du président et même au sein de son parti. C'est-à-dire que depuis 3 mois, on a une sorte de succession de décrets présidentiels qui à la fois changent les personnes qui étaient à la tête des services de sécurité, mais aussi à la tête du parti. Plusieurs de ces décrets présidentiels aussi vont à l'encontre de l'accord de paix, au sens où il y a des positions au sein du gouvernement qui sont dédiées et gardées pour certains partis politiques, ce qui a créé encore une fois énormément de mécontentement du côté de l'opposition.
Ces combats, ils interviennent aussi alors que les discussions de paix ont repris à Nairobi au début de l'année. C'est l'initiative pour la paix Tumaini, espoir en Swahili. Le Kenya assure la médiation. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Nairobi ?
Le processus de paix qui a été débuté à Nairobi était à la fois vu avec beaucoup de scepticisme et même de la part de l'opposition comme quelque chose qui n'avait pas forcément favorisé la mise en place de l'accord de paix d'ores et déjà signé. C'est difficile de savoir si ça va vraiment pouvoir porter ses fruits et amener les réformes espérées. En tout cas, l'agenda porté par les forces politiques de l'opposition présente à Nairobi, c'est celui vraiment de la réforme et de la mise en place d'un accord. Maintenant, est-ce que cela va se faire ou est-ce que cela va pas apporter plus de conclusions et encore une fois rediviser les différents camps politiques? C'est ça qui aussi crée encore plus d'incertitude et de peur du côté de la population, mais des forces politiques en présence.
Emmanuel Veuillet de l'Institut des mondes africains avec Arthur Ponchelet. Le football avec une soirée spéciale Ligue des Champions, barrage retour sur RFI. Parmi les affiches les plus alléchantes, Real Madrid face à Manchester City. Cédric de Oliveira, vous êtes notre envoyé spécial à Madrid au stade Santiago Bernabéu. Cédric, bonsoir.
Bonsoir Sylvie.
Quelle est l'ambiance un peu plus d'une heure du coup d'envoi de cette rencontre?
Eh bien, le stade se remplit tout doucement ici au Santiago Bernabéu. 78 297 spectateurs, c'est précis, sont attendus pour cette belle affiche. Grosse affluence pour une grande soirée d'Europe, comme le Real en a l'habitude. Match couperet donc contre Manchester City, un sacré rival, même si le club est un peu en difficulté ces derniers temps. Il y avait, je vous le disais, beaucoup d'excitation dans les rues de Madrid. Cette affiche fait saliver. Parce que les Anglais avaient remporté cette Ligue des Champions il y a 2 ans, parce qu'il y a des joueurs de classe mondiale en face, notamment le Norvégien Erling Haaland, auteur d'un doublé au match aller, et parce que c'est l'équipe de Pep Guardiola, le Catalan, symbole de la toute-puissance du Barça à l'époque où il dominait l'Europe. Le technicien qui risque d'ailleurs d'être copieusement sifflé à l'annonce de la composition des équipes. Il en a l'habitude, Pep Guardiola, qui espère lui venir gâcher la fête. 3-2 au match aller, c'était le score. Finalement, il n'y a qu'un but d'écart, ça peut aller très vite. City n'est plus la machine à gagner d'il y a quelques mois, mais il y a assez de talent pour venir marquer des buts à Santiago Bernabéu et jouer un mauvais tour aux Madrilènes.
Alors dites-nous Cédric, parce que les paris vont bon train ici à RFI, l'élimination, ce serait une vraie déception hein, pour le Real.
Bah oui, on rappelle que le Real et la Ligue des Champions, c'est une grande histoire d'amour. 15 trophées au compteur, c'est un record en Europe, c'est plus du double que n'importe quelle autre équipe. On a l'habitude de gagner à Madrid, tenant du titre, ce Real, deux Ligue des Champions pardon, sur les 3 dernières éditions, 5 sur les 10 dernières années. Il y a eu ce score de 3-2 au match aller, on l'a dit, arraché dans les derniers instants, cette faculté à inverser le cours des choses à chaque fois en toute fin de rencontre. Et puis il y a beaucoup de talent, Sylvie, partout, mais surtout devant, le Brésilien Vinicius, l'Anglais Jude Bellingham, et puis Kylian Mbappé, très en forme en ce moment, lui aussi avait marqué à Manchester. C'est une soirée pour lui, pour montrer au Real qu'il peut gagner avec lui, lui qui était arrivé l'été dernier, il a été transféré en venant du PSG, il sera titulaire évidemment Kylian Mbappé. À noter aussi le retour très attendu de l'Allemand Antonio Rudiger en défense centrale aux côtés du jeune Asensio. Et puis le Français Eduardo Camavinga sera lui sur le banc de touche.
Merci Cédric de Luera en direct de Madrid. On va suivre bien sûr cette soirée spéciale Ligue des Champions sur RFI, prise d'antenne comme on dit à 20h40 avec Babacar Diarra qui sera en studio, sans oublier Sofiane Amazian qui sera lui au Parc des Princes pour nous faire vivre la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Brest. Dans quelques instants, ce sera Accent d'Europe. On va voter ce dimanche pour les élections fédérales en Allemagne. La droite et l'extrême droite sont données favorites dans les sondages. Les thèmes de l'immigration, mais aussi de la récession économique ont dominé cette campagne. Reportage à écouter tout à l'heure à 20h10 dans Accent d'Europe ou en podcast sur le site RFI ou l'application Pure Radio. Puis on vient de le dire, en raison de la soirée spéciale Ligue des Champions, il n'y aura pas de couleur tropicale ce soir. Mais place à la culture sur RFI.
RFI, les voix du monde.
RFI Afrique Soir, et c'est le moment de retrouver Pierre Vallée pour notre rendez-vous culture. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous.
Et vous nous parlez ce soir d'un festival.
Oui, le festival Les Afropéennes qui aura lieu à Lomé au Togo du 20 au 23 février. Un festival dont RFI est partenaire et qui a pour but de créer un pont entre artistes africains et européens. Il se répartit sur deux scènes, une à l'Institut français et l'autre au quartier Agoé, un quartier populaire de Lomé. Et c'est important, les concerts sont gratuits.
Alors Pierre, qui est donc à l'affiche de cette manifestation?
Eh bien, je dois vous dire que la programmation est assez alléchante. Beaucoup d'artistes intéressants dont nous avons déjà parlé ici, comme Aaron and the Jerry Jerry Band, King Gongolo Kinyata, les Quinois qui recyclent des déchets pour fabriquer des instruments, le groupe de jazz éthiopien You Can Dance, les Béninois de BIM et leur spectacle énergique, les afrofuturistes GKBL, la célèbre chanteuse ivoirienne Roselyne Layo, j'en passe, et il y aura aussi bien sûr ceux qui viennent de sortir un nouvel album, les Congolais Jupiter and Oquess.
Et j'imagine, Pierre, que des artistes togolais seront également présents à ce festival.
Eh oui, bien sûr, il y aura les incontournables Toufan, car qui dit groupe togolais dit Toufan, célèbre dans le monde entier, puisque même Henriette de la cafétéria de RFI m'en parle tous les jours. Elle est togolaise, bien sûr. Et il y aura aussi, surtout, le rappeur qui monte à Lomé, l'étoile montante, qui dépasse le million de vues à chaque nouveau clip sur YouTube. Je veux parler de Paki Chenzou, j'espère que je prononce bien, dont nous allons écouter un morceau dans quelques instants, mais juste avant, je vous rappelle les informations importantes. Le festival Les Afropéennes démarre donc demain, jeudi 20 février, jusqu'au dimanche 23, et tous les concerts sont gratuits, donc vraiment n'hésitez pas si vous êtes à Lomé, ça vaut le coup.
King Sena Baratri. Allô papa, j'ai quand tapé le million, j'attends la transaction. Ils sont pas prêts pour la suite, zéro fuite, my baby. Ils m'ont pas vu venir. Je suis allé.
partir de l'autre côté. J'y gagne. J'étais au fond. Tu m'as blessé. Je t'ai blessé. Au final, tu trouves sur mon vie. On la voit d'île. Je suis sorti d'un dos. Moi, j'ai fait la queue. À chacun sa croix.
Les Afropéennes, c'est donc demain le début de ce festival à Lomé, au Togo. Ça dure jusqu'au 23 février. Merci Pierre Vallée. L'avant-dernier volet de notre série de reportages dans le nord du Bénin, une zone confrontée à la menace d'attaques terroristes. Samedi, une position de l'armée a été attaquée dans le parc W le mois dernier. Plus de 30 soldats ont été tués dans la zone dite du point triple. La situation sécuritaire préoccupe les populations du nord du pays et au-delà des mesures sécuritaires, des projets sont menés pour favoriser la cohésion sociale. Reportage à Malanville de notre envoyé spécial Magali Lagrange.
Assis en tailleur sur un tapis en tenue bleu clair, Ibrahim Adam nous reçoit dans sa mosquée. Quand il n'est pas conducteur routier, ce prédicateur, imam à Malanville, lance des messages aux fidèles.
J'aimerais qu'on puisse savoir l'importance de la paix. Parce que tant qu'il n'a pas la paix, rien ne marche. Ta religion même, tu ne peux pas le faire à l'aise. Le commerce, zéro. C'est-à-dire l'élevage, zéro. L'agriculture, les choses par lesquelles nous vivons, tout ne peut pas marcher. Tant qu'il n'y a pas la paix.
Ibrahim Adam intervient régulièrement sur une radio locale. C'est sur des leaders religieux comme lui que s'appuient les ONG qui sensibilisent contre l'extrémisme violent. Avec l'ONG Vie et Environnement, Moussa Muntala participe à des projets, en particulier pour les jeunes.
Souvent, nous passons par les activités de lutte traditionnelle, les sketchs, les activités de football. Et nous faisons passer maintenant le message de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. La jeunesse est plus attirée par cette activité et le message passe vite.
Objet d'une attention particulière, les conflits communautaires. L'association Coexister fait de la prévention en instaurant des cadres de dialogue. L'an dernier, elle est par exemple intervenue à Garou, où un conflit entre agriculteurs et éleveurs a fait 2 morts. Abdou Karimou Bouraïma est son président.
Vous savez, les extrémistes sont des marchands de violence qui ont besoin de renforcer leur équipe. Alors du coup, ils utilisent les différentes frustrations des communautés pour leur proposer des solutions. Et ça fait que ces communautés frustrées rejoignent dans l'espoir qu'un jour, ils reviendront dans leur communauté avec plus de droits. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'injustice et ne pas se taire quand ça se passe.
Dans son bureau de la mairie de Malanville, Moussa Sambonoum affirme que le gouvernement béninois fait tout son possible pour lutter contre l'extrémisme violent. Mais le deuxième adjoint au maire identifie une difficulté à dépasser pour que toutes ces actions portent leurs fruits.
C'est celle de la méfiance installée entre les communautés et l'armée. Tant que nous n'arrivons pas à ramener la confiance, vraiment, c'est un terreau favorable aux groupes criminels.
Des préoccupations entendues, affirme-t-il, par la haute hiérarchie militaire. Les forces de défense et de sécurité mènent des opérations pour se rapprocher des populations. Journées portes ouvertes ou soins gratuits, par exemple. Magali Lagrange, de retour de Malanville, RFI.
Et cette série de reportages consacrés au nord du Bénin s'achève demain, jeudi. Vous pouvez la retrouver, la réécouter, même la lire sur notre site internet www.rfi.fr.
Demain sur RFI.
8 milliards de voisins, Emmanuel Bastide.
À l'occasion de la conférence mondiale sur la sécurité routière, comment améliorer l'état des routes et des infrastructures en Afrique? Nous parlerons des feux tricolores, des passages piétons, des panneaux de limitation de vitesse, des ronds-points, des glissières de sécurité. Bref, comment aménager des routes plus sûres pour favoriser les déplacements de tous les usagers africains?
8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Santé.
Charlie Dupiot vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine.
demain.
La dépression masculine, quelle particularité dans les symptômes et l'expression de la maladie?
Vendredi.
Enfants et écrans, quelles limites fixer?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.